I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Thomas Rozek. Travailler sur les questions numériques, c'est faire en permanence l'expérience de la lutte contre les fantasmes dystopiques, de repousser sans cesse la tentation de voir dans tel ou tel nouveau phénomène né des usages modernes la concrétisation des prophéties les plus sombres de la science-fiction. Parfois on y arrive, et parfois on se dit que les géants du secteur font tout pour qu'on y pense. Par exemple, lorsqu'on lit dans la presse que Facebook s'associe avec l'entreprise Neuralink, qui appartient au fameux et sulfureux Elon Musk, pour concevoir une technologie capable de piocher des infos directement dans nos cerveaux. Le but officiel, c'est d'aider, comme toujours, notamment les personnes souffrant de déficience ou de handicap moteur. Mais quand même, pas mal de voix dans la communauté scientifique s'alarment de voir les GAFAM, comme on les appelle, regarder d'un peu trop près nos cortex, à tel point que certains appellent de leur vœu la création de lois protégeant littéralement la liberté de penser. Est-ce qu'on n'atteindrait pas les limites ultime du capitalisme actuel? Ce capitalisme d'ailleurs n'a-t-il pas lui-même muté? Va-t-on passer de « si c'est gratuit, c'est toi le produit » à « si c'est gratos, c'est toi le robot » Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
Est-il préférable pour l'humanité d'être libre de prendre des décisions qui aboutiront probablement à sa propre destruction, ou bien doit-elle s'en remettre au contrôle des machines pour son confort et son bonheur, au prix de sa liberté?
Notre invité pour comprendre ces enjeux, c'est l'économiste italien Carlo Vercellone, qui enseigne à l'université Paris 8. Je suis allé le voir pour que, dans un premier temps, il décrypte pour nous ce qui est le cœur de ses objets d'étude, à savoir ce que lui appelle le capitalisme cognitif.
Le capitalisme cognitif, défini après le capitalisme mercantiliste et le capitalisme industriel, une nouvelle étape du capitalisme, ouais, dans laquelle la dimension du travail intellectuel et cognitif devient dominante du point de vue de la création de la valeur et de la richesse. Dans ce cadre, alors, l'enjeu clé pour la valorisation du capital devient l'appropriation de l'information et de la connaissance et sa transformation en marchandise fictive.
Est-ce que vous diriez que c'est l'ère dans laquelle on se trouve actuellement? Est-ce que nous sommes entrés et maintenant de plein pied dans l'ère du capitalisme cognitif?
Oui. Le capitalisme cognitif est aujourd'hui la forme dominante du capitalisme, comme il était le capitalisme industriel à l'âge de la croissance des Trente Glorieuses. Dans quel sens il est la forme dominante? Bien évidemment, il existe des entières zones du monde, disons, dans lesquelles le cœur de la production reste centré sur les matières premières, disons, ou encore sur des productions manufacturées, disons, standardisées. Mais du point de vue de la division internationale du travail, aujourd'hui, ce qui prédomine est la maîtrise de la filière et de la production de la connaissance.
Par quelles étapes il passe ce capitalisme cognitif? C'est-à-dire que si on prend une approche très concrète des choses, quelle forme il prend autour de nous tous les jours ce capitalisme cognitif?
Je pense que c'est important de partir, disons, des origines du capitalisme cognitif. Le capitalisme cognitif, il intervient dans une bifurcation de l'histoire. Le fordisme, il avait conduit à son aboutissement les normes de la production, de la consommation des masses, des marchandises standardisées et des institutions de la société disciplinaire. Et la contestation, à travers la critique artiste, la critique sociale du capitalisme industriel, a donné impulsion à cette transition vers le capitalisme cognitif. Sur cela, ils se sont greffés deux autres phénomènes centrales qu'on peut résumer de la manière suivante, à savoir le capitalisme cognitif, né de la rencontre, voire du choc entre deux tendances. Alors, la première tendance est une tendance à la hausse du capital immatériel, le terme du jargon des économistes. Qu'est-ce qu'il y a derrière? En réalité, il y a derrière, pour l'essentiel, la formation d'une intellectualité de masse. C'est-à-dire une élévation considérable du niveau de formation de la force de travail, une force de travail qui est aussi de plus en plus à même d'auto-organiser la production et de s'auto-organiser en donnant lieu, par exemple, au phénomène de commons de la connaissance.
Petite parenthèse pour un point sémantique, car le terme va revenir. Les commons, ce sont en français les communs, c'est-à-dire des ressources partagées, gérées et maintenues collectivement par une communauté, à la fois pour les protéger, mais aussi pour que tous puissent l'utiliser. Ils peuvent être matériels, urbains par exemple, mais aussi donc immatériels, d'où l'idée de commun de la connaissance, liée à la culture commune et à l'univers du numérique. L'encyclopédie en ligne Wikipédia est un exemple qui revient souvent. On avait consacré d'ailleurs un épisode à la façon dont le monde capitaliste tente de se glisser dans ces logiques de partage. C'était notre épisode numéro 140. Fin de la parenthèse, retour à notre discussion avec Carlo Vercellone.
De l'autre côté, la révolution informationnelle qui détermine une formidable baisse des coûts et une augmentation de la vitesse, disons, de transmission de la connaissance et de l'information, et induit aussi un autre phénomène majeur. Cet autre phénomène majeur, il se trouve dans les faits que la révolution informationnelle accélère les tendances à l'automatisation de la production tout en les articulant à une dématérialisation de la production. C'est-à-dire que tout un ensemble de biens, surtout les biens culturels comme les livres, comme les disques, peuvent être désormais émancipés de leur support matériel. Et c'était sous ces supports matériels qui les rendaient, dans le jargon de la théorie économique, des biens privés. C'est-à-dire des biens qui étaient rivaux, on ne pouvait pas utiliser, disons, en même temps les mêmes livres, et donc aussi des biens pour lesquels on pouvait demander un prix. Désormais, avec la dématérialisation de la production, un grand nombre de ces biens, à l'instar de la connaissance, devient ce que dans la théorie économique on appelle des biens collectifs ou des biens communs, c'est-à-dire des biens non rivaux et difficilement excluables par les prix. Pourquoi ils sont des biens non rivaux? Parce que dématérialisés, tout un chacun il peut les utiliser sans priver une autre de leur utilisation.
On peut lire tous plusieurs, on peut être plusieurs personnes à lire en même temps le même livre en PDF, par exemple.
Voilà, c'est ça. Et de surcroît, cela pose un énorme problème pour les entreprises, car personne ne va accepter, disons, de payer. Et donc, s'est développée une énorme économie de la gratuité, qui a posé, disons, au capital un dilemme majeur. C'est-à-dire l'ancien modèle de profit en vigueur au temps du capitalisme industriel, on produit des biens rivaux avec un support matériel, disons, on les vend, ne marchait plus. Et dans ce contexte, pour faire face, disons, à ces défis, le capitalisme a choisi deux stratégies qui, en apparence, peuvent paraître opposées, mais qui en réalité sont complémentaires et souvent sont utilisées simultanément par les grandes entreprises leaders du capitalisme cognitif informationnel, à l'instar des GAFAM. Première stratégie, à travers des artefacts juridiques ou techniques, on essaie de rendre à nouveau ces biens rivaux et donc excluables par les prix. Et c'est là à travers deux dispositifs principaux. Premier dispositif, un formidable renforcement des droits de propriété intellectuelle qui s'est produit notamment à partir, disons, des années 80, brevets, copyright. et qui a conduit à une explosion, par exemple, du nombre de brevets, à une explosion, disons, de la durée, disons, du copyright, c'est-à-dire à un excès de privatisation de la connaissance qui empiète sur la circulation de la connaissance, donc sur la possibilité, disons, même de l'innovation. La deuxième stratégie est plus raffinée, celle qui s'affirme dans cette dernière décennie et qui est à la base de l'essor, disons, des GAFAM, de la manière dont on, disons, pris la tête, disons, des premières des firmes en termes de capitalisation boursière. Et elle repose dans la chose suivante. On accepte cette contrainte de la gratuité et on utilise cette gratuité pour attirer sur des plateformes, hein, un grand nombre d'usagers afin d'extraire de l'activité de ces usagers tout un ensemble de données, les célèbres données dont aujourd'hui on dit que sont les nouveaux pétroles de l'économie, et des contenus pour pouvoir les vendre aux annonceurs publicitaires sur l'autre face de la plateforme. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le modèle de la gratuité marchande et des marchés biface. On a deux faces, une face qui est en apparence gratuite, dans laquelle, à travers un jeu d'économie de réseau, on attire, disons, les usagers. Les usagers, par leur activité, produisent des données et des contenus, et on utilise ces données et ces contenus surtout pour vendre sur l'autre face le profilage des consommateurs, disons, aux annonceurs publicitaires. Et cela conduit à expliquer deux éléments majeurs du capitalisme contemporain. Alors, premier élément majeur, on peut dire que en réalité, cette activité réalisée par les usagers, en apparence ludique et bénéficiant de services gratuits, est en réalité un travail. Ce qu'on appelle le free digital labor, que l'on pourrait résumer à travers la formule suivante. Si c'est gratuit, c'est parce que vous êtes à la fois les produits, mais aussi les travailleurs, qui par votre activité vous produisez vous-même comme des marchandises au service des entreprises et des plateformes. Le deuxième élément majeur que cela permet, disons, d'expliquer, c'est ce paradoxe incroyable auquel souvent on ne songe pas, mais il éclate devant les yeux, c'est qu'aujourd'hui les principales firmes en termes de capitalisation boursière, de taux de profit, à l'instar de Google et Facebook, sont des véritables naines en termes d'emploi. Ils n'ont presque pas d'effectifs salariés, sinon dans des proportions extrêmement réduites, disons, par rapport à... Comment on explique ce paradoxe? C'est grâce à cette énorme masse de travail gratuit.
Petite parenthèse à nouveau pour illustrer le propos de notre invité. Si on prend par exemple le cas de Facebook, les effectifs ne sont effectivement pas délirants, puisque Facebook, selon les chiffres de juin 2019, emploie 39 651 personnes et Alphabet, la maison mère de Google, 103 549 personnes. Par comparaison, Ford en 97 employait 364 000 personnes, soit trois fois plus que Google. Un contre-exemple serait Amazon, qui emploie actuellement 647 500 personnes, mais dont le modèle s'approche en grande partie du fordisme plus traditionnel car il repose en grande partie sur un capitalisme matériel.
La transformation la plus révolutionnaire est encore à venir. Ce n'est plus l'ouvrier qui se déplace, mais les éléments de la voiture qui sont amenés jusqu'à lui. L'homme se tient maintenant à un point fixe et répète indéfiniment le même geste. La chaîne est née.
Fin de la parenthèse et retour à notre conversation avec Carlo Vercellone.
Et là, nous avons un autre enseignement majeur de l'histoire. Comme l'affirmait Brodel, la grande force du capitalisme se trouve dans son extrême flexibilité, dans sa capacité, disons, d'adapter sans cesse ses mécanismes de domination et d'extraction du surplus.
Ce qui frappe désormais et ce qui ressort de différents articles qu'on a pu lire ces derniers temps, ou de différentes affirmations qu'on a pu entendre dans la bouche de grands acteurs du numérique, de grands patrons du numérique maintenant, qui sont les tenants de ce capitalisme cognitif, c'est qu'ils s'apprêtent à passer un cran supplémentaire et qu'on parle désormais de neurocapitalisme et qu'on voit se dessiner une volonté d'aller encore plus loin dans cette transformation des internautes, des usagers, en véritable machine-outil du capitalisme numérique, dans le sens où désormais, le simple mouvement de nos yeux sur les écrans pourra être capté et transformé, éventuellement, comme vous le décriviez, en valeur marchande derrière. C'est une suite logique, selon vous, de cette tendance du capitalisme à s'insérer un peu partout où il peut?
Je pense que sans doute, dans ce capitalisme cognitif informationnel, de plus en plus basé sur l'exploitation des données et sur des mécanismes qui permettent une énorme centralisation de l'information, se greffe la tentation, plus qu'une tentation, une réalité de plus en plus forte d'une société de la surveillance. D'une société de la surveillance de chaque acte des individus associé à des algorithmes qui se rapprochent de ce que Deleuze appelait une société du contrôle. C'est-à-dire, il nous indique quoi faire en nous donnant en même temps toujours l'impression de ne pas nous contraindre. Cependant, à la différence, disons, d'autres collègues qui sont extrêmement pessimistes, disons, sur la domination totale de ce capitalisme, de la surveillance, de ce néo-capitalisme, je pense que les forces de résistance, l'ambivalence, disons, de l'Internet, qui repose sur sa neutralité et sur l'héritage du commun, disons, qui nous ont livré, disons, ces pionniers, continue à jouer un rôle important, et donc c'est une dynamique extrêmement ambivalente. On a pu encore le voir, disons, dernièrement, avec les mouvements des Gilets jaunes. Sans doute le mouvement des Gilets jaunes a reposé en grande partie sur l'utilisation des réseaux de Facebook. Ça a été une manne pour Facebook pour rassembler, disons, tout un ensemble de données, disons, et d'informations. Mais ça a été aussi un formidable mécanisme de coordination sociale de mouvements inédits. Je suis très attentif, disons, aux tendances, disons, vers une société de la surveillance totale, dans cette alliance entre les GAFAM, disons, et les États. Mais de l'autre côté, comme le disait Foucault, où il y a oppression, il y a toujours de la résistance et surtout il y a de la force d'invention qui permet de contourner ces mécanismes et de créer, disons, d'autres dispositifs qui les surmontent.
Est-ce que finalement le plus grand coup de maître du capitalisme ces 20 dernières années ou ces 30 dernières années, c'est de nous avoir fait croire qu'il allait mourir, de nous avoir fait croire qu'il allait disparaître? Parce que moi j'ai grandi dans un monde où on nous disait que le capitalisme était mort ou allait mourir. Ouais. On se rend compte aujourd'hui que c'était évidemment une fausse idée, en tout cas que c'était un mirage.
Je pense que le capitalisme, oui, là c'est vraiment le discours idéologique typique. On vous fait croire, disons, qu'on intègre, disons, les critiques qui lui sont adressées et que donc une métamorphose du capitalisme, c'est un dépassement du capitalisme. Alors que non, c'était simplement un perfectionnement de ce dispositif de domination.
Et des exemples de résistance aux tentations ultra-financières via le logiciel libre et les valeurs fondamentales d'Internet, il y en a, ne serait-ce qu'au hasard en France, VLC, le player vidéo. Il y a d'ailleurs une excellente interview de son patron actuel dans le numéro du magazine Society daté du 17 au 30 octobre avec en titre cette citation « Macron est un con, il utilise Gmail ». Merci à Carlo Vercellone pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Solène Moulin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler, et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.